Shalom, vous écoutez les messages Vie d'Alliance avec le pasteur Alexandre Amazou. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, les messages Vie d'Alliance vous accompagnent au quotidien dans le but de renforcer votre foi et redynamiser votre vie chrétienne. Faites alliance avec la parole de vie. Dieu vous bénisse.
Faites le choix du changement. En deuxième partie, qu'on va voir aujourd'hui, 2 Corinthiens 3, verset 18. On va se lever avec révérence pour la parole et on va faire cette lecture. Par respect pour la parole, je veux que tout le monde se tienne debout pendant qu'on va lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui, tu peux lire pour nous.
Nous tous.
Qui? Je veux que tu répètes en même temps qu'on lit. Nous tous. Oui, vas-y.
Nous tous. Mm-hmm. Qui? Le visage découvert.
Le visage découvert.
Contemplons. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit.
Merci, veuillez vous asseoir. C'est un verset qui est important. Il dit nous tous dont le visage est quoi? Découvert. Mais ici, ceux qui ont le visage découvert, c'est ceux dont le voile a été ôté. C'est-à-dire, toute personne qui ne connaît pas Jésus marche avec un voile sur le visage. Il voit les choses de Dieu, il ne les reconnaît pas. Il n'arrive pas à contempler la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, vous dont le visage est découvert, dont le voile a été enlevé par le sang de l'agneau, qui avez lavé votre robe dans le sang de l'agneau, nous faisons quoi? Nous contemplons comme dans un miroir la gloire de qui? Du Seigneur. Vous savez avec moi qu'en temps normal, lorsqu'un homme regarde un miroir, c'est sa propre image qu'il voit. Mais ici, la Bible nous dit que lorsque nous regardons dans le miroir, nous voyons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. Donc, de quel miroir la Bible parle? Ce miroir ici, c'est la parole. Lorsqu'un homme contemple la parole, verse les yeux dans la parole, croit la parole de Dieu, alors, en contemplant la parole, il voit Dieu. Il comprend Dieu. Il saisit Dieu. Et en comprenant Dieu, en voyant Dieu, il, lui, est transformé en la même image. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi j'ai dit dimanche dernier que la parole de Dieu est facteur de changement. Il n'y a de changement nulle part que dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois convaincu. C'est un élément fondamental parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut changer en dehors de la parole. Si quelqu'un te dit que quelque chose de bon peut arriver à sa vie en dehors de la parole de Dieu, il ment. La parole fait figure d'autorité et est le seul instrument que Dieu a laissé à l'église qui a la capacité de changer toutes choses. La Bible dit, elle a au commencement fait toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole a au commencement fait toutes choses. La parole a la capacité de défaire toutes choses. La parole est la substance de tout ce qui existe et tout ce qui tient. Parce qu'au commencement, quand Dieu faisait la création, Dieu a dû prononcer la parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi la parole? Dis avec conviction la parole. La parole est Dieu. Et en tant que chrétien, ça doit être notre conviction de base. Sans la parole de Dieu, ma vie ne peut pas changer. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, souvent, il y a des gens qui vont dans des écoles ou des instituts de, comment on appelle ça? dans des instituts pour ceux qui sont drogués, par exemple, ils vont faire de la rééducation. Désintoxication. Les gens vont même dans des trucs, dans des structures qui changent les gens. Mais en réalité, les gens ne changent pas. Après, il y a des rechutes. La seule chose qui est capable de changer un homme qui est drogué en un homme qui ne va plus jamais toucher la drogue, c'est la parole de Dieu. Aucun institut ne peut changer une prostituée en femme vertueuse. On va tout faire. Tu vas peut-être arrêter un temps, mais tu vas continuer après. Un voleur, un brigand, un tueur à gages, comme Paul. Parce que Paul, qui a écrit le tiers de la Bible, était un tueur. Et lui, tu n'es pas n'importe qui, tuait les chrétiens. C'est quelqu'un qui avait un cœur endurci. Mais lorsqu'il a rencontré la parole, sur la route de Damas, quelque chose s'est passé. Dis amen. Sa vie n'a plus jamais été la même. Et c'est ce qui va t'arriver ce matin. Parce que lorsqu'un homme rencontre la parole, quelque chose change dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ma prière, c'est que Dieu te permet de rencontrer sa parole. Parce que vous voyez, pendant qu'on prêche, d'autres vont faire une rencontre spéciale. D'autres ne vont pas faire la même rencontre. C'est-à-dire, nos rencontres sont individuelles avec Dieu. C'est une affaire individuelle. Dis avec moi, c'est une affaire individuelle. Oui, la parole a la capacité de changer. Mais quand vous regardez les hommes, hein, ils ne changent pas beaucoup. Parce que peu sont ceux qui croient la parole. Ce qu'un homme croit affecte sa vie toujours. Quand vous voyez que quelqu'un dit je crois ça et la chose n'est pas vérifiable dans son quotidien, c'est qu'il ne croit pas la chose. C'est un menteur. Parce que ce qu'un homme croit, il finit par le devenir. Dis avec moi, ce qu'un homme croit et croit réellement, il finit par le devenir. Et si l'Église ne change pas, c'est parce qu'il y a un déficit de croyance. La foi manque dans l'Église. Les gens ne croient pas en la Bible. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs même qui ne croient pas en la Bible. Ils prêchent juste des choses, mais ils n'ont pas la conviction. Parce que tu vas voir, entre ce qu'ils prêchent et puis ce qu'ils vivent, c'est le contraire. La foi marche. Vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. La foi marche. La parole de Dieu peut vous changer. Quel est ton problème ce matin? Dis-moi, je te dirai quelle est la parole que Dieu a pourvue pour ton problème. Tu es malade? Par le maître-sur de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Tu es possédé? Jésus est venu pour quoi? Anéantir Satan. Satan n'a plus de pouvoir. Il dit, je suis venu pour que les prisonniers soient libres. Ceux qui sont captifs du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Quel est ton problème? Tu as un souci financier? Il dit, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la bonne santé est la volonté de Dieu. Dis amen. La paix est la volonté de Dieu. Dis amen. Quand tu dors, tu fais des cauchemars, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce matin, si tu es dans ce cas, tu reçois ta liberté au nom de Jésus. Amen. Dis encore amen. Amen. La parole change les vies. Elle transforme les hommes. Elle change les mentalités. Je te demande, ouvre ton cœur. Dis à ton frère, ouvre ton cœur ce matin. Libère ton cœur pour que la parole entre. Alléluia. Alléluia. Mais voyez-vous, quand vous lisez la Bible, la parole que Dieu nous a donnée, ou les paroles que Dieu nous a données, je l'ai dit dimanche, Dieu nous a donné sa parole. Mais cette parole que tu tiens en tes mains, cette Bible-là, lève ta Bible. Elle est puissante. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Elle est plus puissante. C'est-à-dire, elle peut te prendre de rien et faire de toi tout. Mais pour que cela arrive, ça commence par un choix personnel. Dis avec moi, choix personnel. Un homme est toujours le résultat de ses choix. Tout commence par des choix. Jésus a dit, la Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal. la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te propose de choisir la vie afin de vivre. Donc Dieu propose, Dieu ne force personne, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir ce que nous voulons faire de notre vie et de notre destinée. Et donc tout changement, bien qu'elle soit réelle et que la parole a la capacité de changer les hommes, si nous ne faisons pas le choix de croire à la parole, alors notre vie ne changera pas, même si on dort avec la Bible. Et le problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, mais comme leurs yeux ne sont pas encore ouverts sur cette parole, ils ne contemplent pas encore le miroir de la parole afin d'être transformés à l'image de celui qui est l'auteur de la parole, alors ils vivent avec quelque chose qui est tout et eux, ils sont rien. Quel drame d'avoir tout, c'est un peu comme un héritier. Tu es le fils de Barack Obama, mais en réalité, tu ne l'as jamais su. Tu vis quelque part derrière à Bobo. Non, quand tu vas vers Ndotré, quelque part, il n'y a pas route. Tu vis là dans un petit coin, tu ne manges pas, il y a des moustiques, tu souffres. Alors que tu es le fils de l'homme le plus puissant du monde. Barack Obama, tu ne le sais pas. Le jour où tu apprends ça, qu'est-ce qui se passe? Tu veux ou tu veux pas, ta vie va changer. On te démontre que Barack Obama, il était de passage ici une fois et puis il t'a eu. Maintenant, il cherche ce fils-là. Mon ami, tu deviens arrogant. Tu deviens... Parce que vous savez, l'information change l'homme. Le problème des gens, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu. Sinon, tu ne peux pas avoir cette parole-là. Et le Créateur parle. Et tu es là, tu vis comme quelqu'un. Tu vois, on dit, fils ou esclave, à vous de choisir. Moi, j'ai choisi d'être fils parce que je crois que je suis fils. Mais tu ne peux pas avoir la parole de Dieu qui représente Dieu lui-même et vivre comme un esclave. Il y a un problème. Mais tout commence par le choix de croire ce qu'elle dit que tu es. Ce qu'elle pense de toi. Parce que quand on vient t'annoncer que tu es le fils de Barack Obama, là, tu acceptes. Tu crois ça. Et quand tu as cru, tu changes. Tu commences à insulter tous tes voisins dans le quartier. Parce que tu sais qu'on ne peut rien te faire. Tu es citoyen américain et en plus le fils du président. Tu marches, tu dis, écoutez, je vais quitter ici dans 6 mois. C'est-à-dire que tout change. Mon ami, tu sais, il y a des informations. Quand tu les as, tout le monde sait que tu as une information. Même dans cette salle, donner 10 milliards de francs CFA à quelqu'un, sa façon d'entrer à l'église le dimanche prochain va changer. Il va entrer, il va s'asseoir. Il va s'asseoir, il va faire. Ça dit son look. Pasteur, tu peux me recevoir? En tout cas, fais tout pour me recevoir parce que c'est dans ton intérêt. Mon ami, le gars est sûr de lui. Il prend le téléphone, il téléphone au volant. Les policiers vont plus près, dire, calmez-vous, il y a quoi? Oui, parle. Les policiers sont là à l'attente. Parce qu'il sait que quand ils finissent de téléphoner, il met la main juste en bas. Son problème est résolu. Donc, il n'a pas de souci. Il faut qu'il finisse de parler. Parce que ceux-là, leur problème, il a déjà résolu ça. Tu sais, quand tu es sûr de toi, tu es sûr de toi. Frère, quand la parole va entrer dans ton cœur, il y a des craintes que tu n'auras plus. Il y a des angoisses qui vont te quitter. Est-ce que tu peux dire amen? La parole fait figure d'autorité. La Bible dit que Dieu s'est lié par sa parole. Elle ne peut pas changer. Mais tout commence par ton choix. Quel choix tu fais ce matin? De croire la parole, d'avancer ou de ne pas croire la parole? Je vous donne le cas de Judas. J'ai dit c'est tragique. C'est tragique. Moi, pour moi, c'est une tragédie. Comment un homme peut vivre avec des frères, des disciples. Jésus a veillé toute la nuit avant de choisir ses disciples. Il a veillé et il a prié. Il choisit 12 disciples. Je vous ai expliqué que Judas, sa destinée, ce n'était pas l'enfer. Hein? Non. Dieu n'a pas dit, toi Judas, tu vas être né pour me trahir. Non, 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 non. Si tu as cette conviction-là, il faut l'enlever dans ton cœur. C'est le plan de trahison qui a été prédestiné. Mais qui sera l'acteur du plan, ça dépend des choix de tout le monde. Pierre aurait pu être l'acteur. Matthieu aurait pu être l'acteur. Luc aurait pu être l'acteur. Mais chacun a veillé sur son cœur. Judas a choisi de façon délibérée d'être l'acteur principal de ce plan-là. Le plan de trahison. Jésus l'a averti. Quelqu'un va me trahir et il va même mettre sa main dans ma soupe. Judas a entendu. Mais comme la cupidité était dans son cœur, il a trahi Jésus. Donc vous voyez qu'on peut, être exposé à la même parole, aux mêmes enseignements, on peut avoir le même pasteur et avoir des destinées différentes. Je prie que tu ne sois pas dans cette église-là par hasard et qu'au soir de ta vie, d'autres réussissent et que toi, tu ne réussisses pas. Pourquoi? Par ton incapacité de saisir que j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Tu vas regretter ça pour l'éternité. Fais le choix et le bon choix. Parce que la réaction qu'un homme a vis-à-vis de son présent est ce qui détermine son futur. Tout ce que tu fais maintenant vis-à-vis de ton présent est ce qui va déterminer ton demain. Donc demain se bâtit maintenant. En fonction des choix que nous sommes en train de faire, nous bâtissons demain. Dis avec moi, je bâtis demain. Je disais au premier coup tout à l'heure que quelqu'un, je ne sais pas qui a dit ça, que ton père biologique te rappelle d'où tu viens. C'est toi qui a dit ça. Mais ton père spirituel te montre là où tu vas. Moi, je n'ai rien à foutre avec là où tu viens. Tu viens de Korogo, il y a beaucoup de poros là-bas. Tu viens de tel village, les gens sont là-bas plein, ils font fétiche. Ça, c'est ce que ta nature biologique, ton papa, ceux qui t'ont mis au monde, te rappelle que tu viens de ce village et qu'il y a fétiche de famille là-bas qui attaque tout le monde. Moi, mon rôle, c'est de te montrer là où tu vas. Là où la gloire de Dieu va changer ta vie, changer ton histoire à jamais. C'est ça qui m'intéresse. Voilà pourquoi je dis, si tu fais le choix de croire la parole maintenant, ta vie va changer. Ta vie va changer. Mais tout commence par ton choix. Et le choix, tu auras le choix. J'ai dit, tu auras le choix. Dieu va te mettre face à un choix. Il va falloir faire le bon choix. Le bon choix. Dis avec moi le bon choix. J'ai dit, donc, qu'il y a trois choix absolus que tout chrétien né de nouveau doit faire. Ces choix-là ne sont pas négociables, c'est absolu. C'est-à-dire, tu dois les faire. Et le premier qu'on a partagé dimanche, c'était quoi? Le choix de devenir meilleur pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec force, le choix de devenir meilleur pour Dieu? Vous savez, devenir meilleur pour Dieu, aller à la ressemblance de Jésus n'est pas optionnel. Il ne faut pas vous séduire. Frère, on vient à l'église là, ce n'est pas pour faire fashion. La mode, on vient, chacun se sape et puis on vient faire. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est ici. On est ici là pour gagner le ciel, nous tous. Ou bien il y a quelqu'un qui est là pour autre chose. Parce qu'il y en a qui sont là peut-être pour autre chose. Eux, c'est mari ou bien femme, ils cherchent. Pas ciel, mari ou femme. Non, on est là pour gagner le ciel. À la base, c'est ça que tout le monde recherche. Donc l'église est un lieu pour faciliter notre trajectoire, pour qu'au soir de notre vie, nous soyons qualifiés pour gagner le ciel. Donc il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel de l'objectif qui a fait que Jésus est venu mourir et puis il est remonté et il revient bientôt. Donc, choisir de devenir comme Jésus n'est pas une option, ça veut dire quoi? On ne donne pas sa vie à Jésus tout en continuant à être païen. Parce que c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire quoi? Il y a des amitiés que tu ne peux plus avoir. Tu sais, il y a un verset qui dit, il faut accepter la parole et ne pas vous tromper par de faux raisonnements. On va le lire tout à l'heure. Parce qu'il y a trop de gens qui raisonnent. Ils pensent que Dieu est amour. L'amour de Dieu est ce qui donne droit à Dieu de te juger. Oui. Son amour n'est pas passif. Vous dites oui, parce que j'aime les hommes, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non, la parole de Dieu fait partie de sa nature. Tu comprends? Donc, Dieu ne peut pas aller contre sa propre nature. Tu ne peux pas faire le choix d'être chrétien et en même temps tenir l'église dans la main droite et le monde dans la main gauche. Ça ne peut pas marcher. C'est deux combinaisons qui ne marchent pas ensemble. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a tendance à te ramener vers le monde, à te ramener vers quoi? Le monde. À te ramener, à t'éloigner de Dieu, c'est une relation qui est toxique. Et tout ce qui est toxique, on fait quoi avec? On coupe et on jette. Vous ne dites pas bien amen.
Amen.
Ça veut dire ce matin, tu dois faire le choix de ne plus parler à certains amis. Tu ris. Il y a des gens qui ne peuvent plus être tes amis. Est-ce que je parle du français ou je parle du chinois? Je dis, c'est pas possible. Tu sais, on ne peut pas être chrétien et païen. Je le dis parce que c'est ça la vérité. Moi, je peux être honnête avec toi parce que Dieu va me demander pourquoi tu ne leur as pas dit ce qui est vrai. Attendez. Quelqu'un, à chaque fois que tu es avec lui, il parle de boîte de nuit, on va aller chauffer, on va aller comme ça, on va faire comme ça. Mais attends, en quoi il t'arrange? En quoi il participe à te rendre meilleur alors que le premier objectif que Dieu vise dans ta vie, c'est de te rapprocher de lui. Pourquoi ne pas marcher avec quelqu'un qui t'aide à être meilleur? Et vous allez voir que souvent, les gens qui ne veulent pas comprendre, ils fuient les gens qui les aident à être meilleurs. Quand tu commences à trop lui dire, on ne fait pas ça, il dit, ah, si c'est comme ça, moi je vais te fuir. Tu ne peux pas fuir. Dites amen. Ce matin, je ne sais pas si tu m'écoutes.
Amen.
Regardez-moi. Le monde, ce qu'on appelle le monde. Quand la Bible dit, n'aimez point le monde c'est quoi? Le monde est un système de pensée et de savoir-faire qui a pour objectif de promouvoir le diable et de faire reculer la foi chrétienne. J'ai dit tout à l'heure que tu prends un banquier à Londres, tu prends un banquier à Abidjan, tu prends un banquier en Inde, tu prends un banquier à Jérusalem, ils ont les mêmes réflexes. Parce qu'en réalité, c'est un système de pensée. Tu prends une banque comme la Standard, elle a une origine londonienne. Mais tu prends un cadre de la Standard ici à Abidjan, un cadre de la Standard à Londres, un cadre de la Standard au Ghana, ils ont les mêmes réflexes. Parce que c'est un système de pensée, de savoir-faire que le diable a mis en place. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que vous appelez évolution, progrès, je suis hier et là. En réalité, tout ça, vrai hier et là, c'est quand on est dans la Bible. On est à Abidjan ici. Alléluia. Oui, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'on peut être chrétien et être cool. On peut être chrétien et être correct. On peut être chrétien. Vous savez, les gens ont peur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas lâcher le monde parce qu'ils ont l'impression que si on lâche le monde, on va devenir villageois. Mon ami, c'est maintenant que tu deviens civilisé. Regardez la mode, par exemple. Quand les modes sortent, on dit ça, c'est la tendance de l'été. Ça, c'est tendance. Tout le monde court après les tendances-là. Qu'est-ce que cela véhicule? La plupart des modes qui sortent là, ça véhicule de la nudité. Parce que ceux qui créent, qui conçoivent les modes et qui les mettent sur le marché, ne sont pas chrétiens. Donc eux, ils travaillent pour leur patron qui est le diable. Si les modes devaient sortir de la pensée de certaines chrétiennes, il y a des modes qu'elles n'auraient jamais mis sur le marché. Mais les chrétiens sont dans un monde où ils refusent de s'approprier la culture divine. Ils refusent de s'approprier les affaires du Seigneur. Mon ami, ça fait mal, mais c'est la vérité. Parce que tout le monde, quand la Bible dit n'aimez point le monde, ça veut dire on peut aimer le monde. Le monde est sucré. Il y a son sucre. Mais sauf que lui, son sucre, derrière, il y a un petit mot qu'on appelle mort. Je dis la vérité, je te dis. C'est parce que je t'aime que je te parle comme ça, sinon. Je peux même te dire, non, continue, Dieu avec toi, ça va changer, oh, c'est rien du tout. Et puis tu vas mourir, tu vas aller en enfer pour rien du tout. Mon ami, ce système live est un système subtil. C'est un système subtil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut t'emporter sans même que tu t'en rendes compte. Je vous assure, c'est un système subtil. Le monde est subtil. C'est subtil. Voilà pourquoi il y a un choix à faire à la base. Et tu sais, un homme qui ne choisit pas quelque chose, on va lui imposer autre chose. Regardez, ce matin, tu as choisi de te laver, non? Avant de venir à l'église. Parce que tu sais, si tu ne décides pas de prendre une éponge, un savon, te mettre sous l'eau, tu ne seras pas propre. On ne décrète pas, je suis propre. On pose un acte pour être propre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où l'environnement est déjà pollué. Si tu ne te laves pas pendant 3 jours, même si tu n'as pas roulé dans la poussière, tu seras sale. C'est la même chose. Donc l'église doit prendre conscience que il y a une décision à prendre. On ne vit pas sa vie chrétienne en étant assis et puis en attendant que les choses arrivent. On fait des choix qui influencent notre futur. Et ce matin, tout le monde doit faire un choix. Et le premier choix qui est un choix absolu, tu n'as pas le choix de faire que ce choix-là, c'est le choix d'être comme Dieu et d'améliorer ton image au fur et à mesure que tu avances à la ressemblance à Jésus. Parce que c'est cela qui nous a été assigné comme première mission. La première mission, ce n'est pas que tu aies l'argent. L'argent est bon. Quand Dieu a fait la création, il a dit quoi? Suivez-moi ici. On dit, et Dieu fit l'homme à son image et à sa... Dieu fit l'homme à son image et à sa... Qu'est-ce qu'il a donné à l'homme en premier quand il a créé l'homme? Ce n'est pas son image? Ce n'est pas sa ressemblance? C'est après qu'on met afin qu'il domine. Dominer ici peut parler de richesse. Tu domines, tu as le pouvoir, tu as tout ce que tu veux, tu règnes. Mais l'image précède la domination. La domination ne précède pas l'image. Dieu leur donna son image et sa ressemblance afin qu'il, conséquence, l'image et la ressemblance va te donner la domination. Mais si on ne change pas notre évangile, parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, je vous dis, quel que soit ce qu'on a mis comme fondement dans ta tête, on a parlé, il ne faut pas écouter ça. J'ai dit, ce que je te dis aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Amen. Quelqu'un qui dit t'aime, il te voit aller dans le feu et puis il te dit non, ce n'est pas grave. C'est ton ennemi. Amen. Alléluia! Mais l'église a fait quoi? On dit prospérer à tous égards. Aide des affaires. Ce qui est une bonne chose parce que nous souhaitons que vous prospérez. Que vous soyez bien. Et ça ce n'est pas... Vous savez, c'est comme un éléphant. Quand un éléphant met au monde un éléphanteau, est-ce qu'il y a des doutes sur il va grossir ou il ne va pas grossir? Je te pose une question. Il n'y a pas de doute. On a besoin de jeûner, prier pour qu'il grossisse. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Quand un poisson donne naissance à un autre poisson, est-ce qu'on l'envoie, il envoie son enfant, le petit poisson, à l'école de natation? Toi aussi. Si tu te positionnes sur les objectifs de Dieu, il n'y a pas de doute, il y a des choses qui vont te suivre naturellement. Tu vas prospérer, tu seras en bonne santé, les choses vont marcher pour toi, tout va aller bien. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout. Tout là, c'est compris tout ce qu'il te faut pour que tu sois bien dans la vie. Acclame Jésus s'il te plaît. Tout ce qu'il te faut te sera accordé. Il y a un choix à la base. Ce choix de devenir comme Dieu, tu vas changer tes amis. Si tu as du mal à t'entendre avec les chrétiens, il va falloir que tu t'entendes avec des chrétiens. Si tous tes amis sont des païens, ce n'est pas normal. Ça veut dire toi-même tu as un problème. Parce que ce qui t'attire, est-ce qu'il est en toi? Ou ce qui... Oui. L'aimant attire le fer parce que l'aimant est fait de fer. Donc s'il y a le monde en toi, naturellement, tous ceux que tu vas aimer autour de toi seront les gens du monde. Tu vides le monde en toi. À un moment donné, les gens du monde, tu ne vas pas trop les supporter. Si tu ne les détestes pas, tu peux les saluer pour faire business et tout. Mais ce n'est pas vraiment les gens qui sont dans ta sphère. Vous avez quoi à vous dire? Rien du tout. Vous vous asseyez, vous parlez de quoi? Rien du tout. Le deuxième choix important que j'ai partagé avec vous, c'est le choix de l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Vous savez, l'intégrité, ce n'est pas la perfection. Dis avec moi, l'intégrité n'est pas la perfection. Parce que Dieu a dit de David que David était un homme intègre et nous savons que David a eu beaucoup de faiblesses. Donc, il ne s'agit pas de... Quand on dit, je fais le choix de l'intégrité, tu es parfait. Non. Dieu sait que tu n'es pas encore parfait. Mais un homme intègre, c'est quoi? C'est un homme qui fait deux choses. Numéro un, c'est un homme qui intègre son caractère et sa réputation. C'est-à-dire, sa réputation et son caractère s'intègrent. Il n'y a pas un déphasage entre sa réputation et son caractère. Ça veut dire que réputation, c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens disent de toi. C'est ce que les gens disent te concernant. Mais il faut que ce que les gens disent te concernant, ce que les gens voient à l'extérieur, quand on en voit sur ton caractère, que ça colle. Qu'il y ait une intégration. C'est ça. Quand tu es comme ça, tu es un homme intègre. Mais si ce qu'on voit de l'extérieur, on dit, ah, la seule, elle crache. Oh, mais comme, oh. Et puis en fait, en bas, tu es autre chose que ce qu'on voit. Tu n'es pas intègre. Dites amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc, en tant que chrétien, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Intégrer sa réputation et son caractère. Dis, intégrer sa réputation et son caractère. Il ne faudrait pas seulement que les gens t'apprécient de loin. Parce qu'il y a des gens, tu les apprécies de loin, ils sont formidables. Mais dès que tu vis avec eux une journée, tu ne peux pas. Ah, ils ont mauvais caractère. Ils sont invivables. Ça ne peut pas être ainsi. Et ton intégrité également doit se voir dans plusieurs aspects. Le premier aspect qu'on a développé, c'était sur tout ce qui est matériel et finance. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit être libre de l'argent. Je le dis honnêtement, moi, quand tu as trop de problèmes avec l'argent, on ne peut pas être des amis. Il y a des pasteurs que j'ai sortis de mes amis parce qu'ils aiment trop l'argent. Je n'aime pas les gens qui aiment trop l'argent. Je n'aime pas les gens qui sont toujours accrochés à des... Pour tout, ils voient, ils veulent bénéfice. Ce n'est pas dans tout qu'on fait bénéfice. Ce n'est pas à l'église qu'on fait bénéfice. On lui dit, bon, tu vas acheter deux chaises pour l'église. Il a calculé déjà. Je vais diminuer, je vais prendre comme ça. Bon, mais si tu as diminué, viens rendre la monnaie à l'église, ça va aider l'église. À la limite, tu travailles à l'église, on veut te donner un contrat par rapport à l'église. Prends juste ce qu'il faut. Parce que je ne veux pas prendre. C'est pas si Dieu a fait bénéfice. On donne à Dieu, on ne fait pas bénéfice sur Dieu. L'intégrité dans les choses financières. On doit pouvoir compter sur toi quand on te donne de l'argent pour garder. Quand on t'envoie faire des achats, tu ne dois pas faire disparaître des monnaies et puis refaire des factures pour dire, j'ai pris essence 4 000, hein, mais mets 10 000 francs sur la facture. On met le truc, ça ne dure pas, le groupe, il n'y a plus d'essence. On dit, mais voilà la facture, 10 000. Ça, c'est les chauffeurs qui font ça. Ils vont dans les stations, quand ils ont l'argent, ou même quand on leur donne bon d'essence, ils disent, c'est deux bons de 5 000, hein, mets 3 000, mets, tiens, 10 000, donne-moi 3 000, puis mets 7 000. C'est des voleurs. Et tous les voleurs n'ont pas d'avenir. Parce que remarquez, tous ceux qui volent, ils arrivent nulle part. Vous savez, les lois sont têtues. Les lois sont têtues. Je vous ai dit dimanche dernier que ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas le commencement. Nous tous qui sommes ici là, l'avenir n'est pas derrière nous, hein, c'est devant. Si ton cœur n'est pas droit, ça va te rattraper. Ouh. Tu peux être sûr d'une chose, aussi sûr que c'est Dieu a fait ce jour-là, et qu'on appelle ça dimanche, et que ça n'a pas menti. Demain, ici minuit, on va passer à lundi. C'est comme ça que ça va te rattraper. C'est pourquoi dans ta marche et dans ton service, sois honnête avec ce qui est matériel. Trop de gens sont malhonnêtes. C'est un choix que tu dois faire, parce que dans tous les cas, si tu as cultivé la malhonnêteté, ça va, c'est pour changer, ça va mettre du temps. Mais il faut que tu choisisses de dire, je ne veux plus. Il y a des chrétiens qui volent. Ils convoitent. Cette dame-là, elle a des bijoux. Hein? Ça regarde les bijoux. Il s'imagine comment je vais la braquer. Chrétien. Tu veux vendre son bijou là. C'est pas l'or. C'est-à-dire que tout, ça me dépasse. Est-ce qu'on peut dire honnêteté dans les choses financières? À ce niveau-là, j'ai souligné un point important. Ne garde jamais par devant toi ce qui appartient à Dieu. Je disais tout à l'heure, et souvent dans les enveloppes là, demandez aux responsables financiers, ils vont vous dire. Qui a une enveloppe? Donne-moi. Voilà, c'est bon. Vous voyez ça? C'est une enveloppe. Quand on dit dîme là, les gens enlèvent ça comme ça. Ou bien offrande. Et puis ils ferment, ils mettent l'argent dedans, ils ferment. Quand une enveloppe est fermée là, tu sais. Mais il y a des enveloppes là. Le gars ferme, il ouvre. Il ferme, il ouvre. Il ferme. C'est-à-dire que le combat qu'il mène. Souvent, quand on récupère les dîmes là, c'est déchiré ici. Souvent, quand la colle est trop forte, il déchire. C'est-à-dire c'est déchiré comme ça. Et puis, tu sens qu'il a recollé, puis c'est comme ça. Je lui demande, mais c'est quelle dîme? C'est-à-dire, il a lutté, il a sorti, il a fait des dépenses, il a remis, après il a sorti, après. Tellement c'est difficile pour lui, dès qu'il a l'argent, il commence à réfléchir. Et il y a des gens comme ça, ils font des promesses à Dieu, ils parlent, parce qu'il n'y a rien, il n'a rien encore. Dès qu'il a ça, il commence à changer d'avis, il dit, Seigneur, tu sais, dans tous les cas, Dieu comprend, Dieu est amour, Dieu veut qu'on soit bien, je vais d'abord payer ma voiture, payer mes factures. Non, Dieu sait, l'église dans tous les cas, ils ont plein de sous, tu vois pas le pasteur, il change de cravate tout le temps. Si c'est sur mes cravates, tu es arrivé. Mon ami, moi là, je travaille. Alléluia. Ouais, l'enveloppe souffre. Parce qu'ils ont du mal à rendre. Ils n'aiment pas. C'est difficile. Et je vous assure que la cupidité est un esprit. Quand ça te tient, mon ami, je te dis la vérité, si Dieu ne te libère pas, même tu peux voir ton fils mourir de faim, tu auras du mal. Tu aimes bien contempler quand t'envoies ton relevé de compte. Il y a 25 millions sur mon compte. Waouh. Il y a eu un virement de 15 millions. Oh, formidable. Mais pour dépenser là, tu as des problèmes. La cupidité. C'est pourquoi, quand ils sont venus voir Jésus, Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Allez, je ne garde pas. Ne gardez pas par devant vous ce qui ne vous appartient pas. Quand quelque chose n'est pas pour toi, libère la chose. Tu as la liberté et tu as la faveur de Dieu avec toi. C'est dangereux. C'est pourquoi il a dit dans la parole que l'amour de l'argent, dans 1 Timothée 6, certains se sont attachés à l'amour de l'argent. Et ils se sont égarés. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un problème, l'argent est un serviteur. Mais quand tu commences, lis-moi ça, le verset
1 Timothée 6, verset 10.
Verset 10.
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi.
On dit on peut être possédé par l'amour de l'argent. Ils sont possédés. Oui, c'est l'amour là, de l'argent qui les a possédés. et ils se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire que ça ne marche pas. On ne peut pas avoir l'amour de l'argent et en même temps garder la foi. C'est incompatible. C'est pourquoi la Bible parle de Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir Mammon et servir Dieu. Mammon, c'est le Dieu du matériel, de la richesse, de tout ce qui est finance. Il dit, tu ne peux pas te soumettre à Mammon et te soumettre à Dieu en même temps. Il y a un choix à faire. Suivez Dieu ou suivez Mammon. Intégrité au niveau de nos finances. J'ai parlé de vos dîmes, j'ai parlé de vos vœux. Au niveau des vœux, j'ai été très clair. Dieu nous demande d'honorer nos vœux. Deutéronome 23, verset 21. Psaume 22, verset 26. Le vœu, quand tu fais un vœu, c'est obligatoire, tu dois le payer. Mais il dit également que vous êtes obligé de faire de vœux. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas vivre sans faire de vœux. Voyez? Donc, c'est deux choses. Tu ne peux pas me dire, ah, parce que je ne veux pas, je fais pas de vœux. Non. La Bible dit, tu dois faire des vœux. Mais quand tu les as fait également, tu dois les honorer. Donc, dans les finances, il faut être honnête. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner l'un des points. Moi, qui suis devant vous ici, je n'étais pas fidèle avant dans ça. Et j'ai remarqué que il y avait un certain niveau de bénédiction que je n'avais pas. Regardez par exemple, chaque fois quand je vais bénir mon père spirituel, mon mentor, à chaque fois, c'est hier que j'ai recoupé. À chaque fois que je le bénis, il y a un événement qui se passe dans ma vie. Je le dis la vérité. Il y a un miracle qui s'opère, miracle financier. Quel que soit le miracle, ça fait que Dieu te met au large. Et tu sais, Dieu te met au large. Et tu, à un moment donné, tu commences à comprendre ce que ça veut dire, être au large. Mais c'est des bénédictions qui n'ont rien à voir avec l'église même. J'ai des bénédictions que je reçois qui ne sont jamais sorties de cette église. C'est des gens comme ça qui peuvent m'appeler. Vous dites, pasteur, tu es où? Pasteur, Dieu m'a parlé. Parce que Dieu a dit de faire ça pour toi. Parce que Dieu a dit de faire ça pour toi. Et ça vient à partir de quoi? Quand je prends l'engagement de faire ce que j'ai à faire. Et depuis ce jour, j'ai pris l'engagement. J'ai dit, je ne manquerai plus ou je ne retiendrai plus jamais à Dieu ce qui lui appartient. Parce que tu sais, tu ne peux pas montrer le chemin à quelqu'un si toi-même, tu ne connais pas le chemin. Ce que je te dis là, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et de bien faire ça. C'est pourquoi je te l'enseigne. Ne joue pas avec l'honnêteté vis-à-vis de l'argent. La Bible dit celui qui est fidèle dans les richesses injustes. Le mot richesse injuste a trait au matériel. Dieu lui donnera les richesses éternelles. Dieu dit que ta fidélité ou ton gain en ce qui concerne les richesses éternelles est proportionnel à ta fidélité dans les richesses injustes. C'est trop fort. Et tous ceux qui ont aimé l'argent, qui ont manqué d'intégrité vis-à-vis de ces choses-là, ne sont pas allés loin. Quand vous prenez un gars comme Géasi, sa vie s'est arrêtée, on n'a plus parlé de lui parce qu'il était cupide. Le prophète a prié pour Naaman. Naaman était guéri. Géasi s'est caché derrière pour aller prendre quoi? Le prophète dit, il veut un peu d'offrande. La lèpre l'a frappé. Ils disent que cette lèpre-là soit sur toi, toi et ta génération. Pourquoi? Une affaire de cupidité. Manque d'intégrité dans le cœur. David était un homme intègre. Jacob était un homme intègre. Je vous ai expliqué que Joseph a fait exprès. Il a mis l'argent dans les bagages de ses frères. Il a dit, allez, remettre ça à votre père. Quand Jacob a découvert que l'argent n'était pas destiné à lui, mais que c'était une erreur, il dit, mais ça c'est une erreur. Ramenez-moi cet argent-là. Je ne garde pas ça par devant moi. Combien de gens qui habitent des cours communes? Tu te lèves le matin, tu vois une enveloppe couchée à terre, tu ouvres, c'est 100 000. Est-ce que tu prends les 100 000 francs pour dire, c'est pour qui? Porte numéro 1, c'est pour qui? Porte numéro 2, c'est pour qui? Tu dis gloire à Dieu et puis tu empoches. Même quand après les gens commencent à dire, j'ai perdu mon argent, tu entends? Tu dis rien. L'intégrité dans les choses matérielles. Combien de chrétiens qui viennent chez toi, tu es en train de jouer une musique. Il dit, j'aime bien ta cassette, là, passe-moi ça, je te ramène dans deux jours. Jusqu'au Depuis 1982, tu as la cassette jusqu'à aujourd'hui. Ils empruntent les CD, ils ne rentrent jamais. Ils empruntent cassette, déjà, ils ne rentrent jamais. Livre, Donne-moi ton livre là, je vais lire pour deux jours. Depuis deux jours, il lit depuis là, ça finit pas. Tu as dans ta bibliothèque le livre de quelqu'un, tu regardes son nom écrit derrière. Chaque fois que tu viens à l'église, tu le salues. Et puis tu ne rends pas son livre. Tu n'es pas intègre. Non, il faut qu'on revienne à ce qui est basique. Parce que les grosses doctrines, ça va t'apporter quoi? Rien du tout. Tous ceux qui ont cédé de quelqu'un, rendez ça cette semaine. Non, non, c'est la pratique. Tu as pris le livre de quelqu'un, tu as le CD de quelqu'un, tu le connais, va rendre ça cette semaine. Hein. Je ne dis pas la semaine prochaine, cette semaine, débrouille-toi, rends la chose. Tu as crédit de quelqu'un, tu ne veux pas payer, tu as l'argent, mais tu fais exprès, tu ne payes pas. Chaque fois que tu le vois à l'église, il y vend ses tricots. Tu as pris deux tricots dedans et puis tu tournes. Quand tu le vois, à cause de ça, tu t'assois derrière pour pouvoir disparaître vite. Tout ça, il faut changer ça. Non, on ne peut pas être dans une église où on prie Dieu et les hommes sont malhonnêtes, les hommes ne sont pas honnêtes et ils attendent, ils espèrent que Dieu les bénisse. Dieu ne bénit pas là où il y a la malhonnêteté. Frères et sœurs, il faut que l'église change. Et ce que je dis est biblique. Notre intégrité doit toucher à tout ce qui est matériel. La loyauté, c'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose, il te donne quelque chose, tu lui vends sa chose. Mais tu ne gardes pas, ce n'est pas pour toi. Regardez, le social, souvent, les dimanches, quand on fait les actions de grâce, les gens voient le riz, l'huile, c'est pourquoi. J'ai dit ici que c'est pour faire le... C'est-à-dire tout ce que nous recevons, on partage dans les orphelinats, on donne aux gens. Quand on met là-bas, si on a fait un mois, on n'est pas allé donner le riz, les gens volent. Quelqu'un en prend deux sacs de riz, puis ça va à la maison. Tu vas, et puis tu manges. Et puis tu te dis même pas que le riz va te cogner à la gorge. Dis honnêteté. C'est important. C'est là où on s'était arrêté. C'est ça, non? Hein? Ton intégrité doit aller également vis-à-vis de Dieu. Dis, mon intégrité doit aller vis-à-vis de Dieu. Ah, tu me dis, mais comment un homme peut être intègre vis-à-vis de Dieu? Oui. Intègre dans ce qui touche le matériel, mais ton intégrité doit aller également à ton Créateur. C'est très, très, très important. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Oui.
Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu.
Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Merci. Lis-moi 1 Samuel 16, verset 7.
Et l'Éternel dit à Samuel.
Oui.
Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
Mm-hmm.
L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux,
mm-hmm.
mais l'Éternel regarde au cœur.
L'Éternel regarde où?
Au cœur.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel au cœur. C'est pourquoi j'ai dit ici une fois, quelle que soit la beauté que vous pouvez mettre dans une église, quelle que soit la modernité, que le fond reste intact et solide. Ne perdez jamais le fond. Si vous perdez le fond, vous avez tout perdu. Je vous dis, si vous arrivez un peu où vous ne pouvez plus prêcher la vérité, vous êtes obligé de prêcher des trucs pour caresser les gens, pour faire des trucs, mon ami, c'est fini. Ou la forme prend le dessus sur le fond, c'est terminé. Une église où on prie plus, où on chasse plus les démons, où on guérit plus les malades, où il n'y a pas de miracle, frère, c'est fini. Une église qui devient un centre de commerce, c'est fini. Notre intégrité doit aller à Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Ton intégrité, tu le dois à Dieu. Parce que vis-à-vis de Dieu, tu as également un devoir. Parce que l'homme a un devoir vis-à-vis de Dieu. Quel est ton devoir vis-à-vis de Dieu? Jésus l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ensuite, il y a un autre. Tu l'aimeras, tu le serviras. Lui seul. Donc, tout être humain ou tout chrétien a un devoir d'aimer Dieu. C'est un devoir. Tu ne peux pas venir dire, j'aime Dieu. Et quand Dieu regarde ton cœur est loin de lui. Tu t'es séduit toi-même. Tu as le devoir de le servir lui seul. Parce qu'il est ton Dieu. Mais si tu dois le servir, c'est que tu dois faire le choix de garder sa parole dans ton cœur. Nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. On a besoin d'être intègre vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de Dieu. Beaucoup qui ne sont pas honnêtes. Et qui se séduisent eux-mêmes. La première chose ici, dans le volet, faire le choix de garder ton intégrité vis-à-vis de Dieu, il y a un premier point ici que je veux que tu notes, c'est que tu dois, il te faut une persuasion totale. Parce que tu savais, on ne vient pas à Dieu. On ne décide pas de suivre Dieu sans se persuader que ce que je suis en train de suivre là est la bonne chose. Et ce qu'il me faut. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont surpris. C'est-à-dire, c'est quand ils sont entrés, ils ont décidé de suivre le Seigneur, qu'après ils se rendent compte que, ah, l'affaire est aussi sérieuse que ça. C'est comme dans un mariage. On ne décide pas de marier quelqu'un sans persuasion. On s'assoit et puis on se persuade que ce choix que j'ai fait là, c'est un choix de vie. On va vivre ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Elle sera malade devant moi. Elle va se réveiller devant moi. Il n'y a plus maquillage, il n'y a plus fond de teint. Elle sera là, matin, midi, soir. Ses pieds seront devant tout ce qu'elle est. Elle sera dans son, dans sa valeur absolue. Elle sera devant moi. Je dois toujours continuer à l'aimer. Ça, c'est une persuasion. Mais on ne se lève pas parce qu'on a vu une jeune fille qui a mis des pommades rouges ici, bleues ici, vert ici, noir ici. On dit, ah, mais la fille, elle est trop jolie. Et puis, on saute sur elle. Sans s'asseoir pour réfléchir. Quand tu vas entrer, tu vas, après, tu vas courir pour sortir. Mais pourquoi vous riez? Quand tu dois marier quelqu'un, tu t'assois, tu réfléchis pour voir si la personne là, dans 10 ans, je peux continuer à l'aimer. Dans 30 ans, je peux continuer à l'aimer. Dans 40 ans, je peux continuer à l'aimer. Il faut une persuasion totale vis-à-vis de toi-même. C'est la même chose. On ne s'engage pas avec Dieu parce que l'engagement avec Dieu est un mariage. La Bible dit, ça dit, Dieu va célébrer le mariage à l'avènement de notre Seigneur. Nous sommes l'épouse. On ne s'engage pas avec Dieu sans persuasion. Il faut que ton cœur soit honnête. Est-ce que l'affaire dans laquelle tu t'engages là, tu connais le contour? Tu as évalué le pour et le contre? Donc les gens sont surpris quand le pasteur leur dit par exemple, on va faire ça. On va faire comme ça. Il dit, ah pasteur, tu nous demandes trop. Mais oui, tu as oublié. Tu t'es engagé. On va te demander des choses. Je suis désolé. Pasteur, tu nous demandes trop. Mais oui, si je ne te demande pas, on va demander à qui? Non, sincèrement, je ne te demande pas d'aller demander dehors pour qu'on garde mon nom. C'est à toi que je vais demander. Donc, il faut peser le pour et le contre. Pourquoi tu es devenue chrétienne? Tu dois assumer. Tu dois assumer. C'est ça la loi, l'intégrité du cœur. Seigneur, je t'assume. Une persuasion totale. Il te faut une persuasion totale. Dis-moi persuasion totale. Lis-moi un passage de Timothée. Un 12.
De Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
Il dit, c'est en qui il a cru. Il est confiant dans le Dieu qu'il a choisi. Il ne fait pas comme ça. Quand ça marche, Dieu est grand. Ça ne marche pas, Dieu est petit. Ça marche, Dieu est grand. Ça ne marche pas, Dieu est petit. Tous ceux qui doutent de Dieu, qui sont tout le temps en train de dire, Seigneur, on ne comprend pas, notre vie n'avance pas, est-ce qu'on a tué Jésus? On n'a pas tué Jésus. C'est des gens qui, à un moment donné, il te faut encore de la persuasion. Dis, il me faut de la persuasion. Donc, ce que je te dis là, je te demande d'aller à la maison, de t'asseoir, et de cultiver une véritable persuasion pour te dire la conviction que Dieu, le Dieu que tu as accepté là, ta loyauté vis-à-vis de lui sera infaillible, quel que soit ce qui arrive. Sinon, tu vas prendre des raccourcis. Et malheureusement, plusieurs ont pris des raccourcis parce que leur cœur n'est pas persuadé. L'intégrité est importante. Voilà pourquoi Dieu a dit de David, David, l'homme selon mon cœur. David a eu des faiblesses. Il ne s'agit pas de faiblesses. David a eu des faiblesses. Il a fait des choses même que personne n'a fait ici. Il a pris la femme de quelqu'un, il a tué le gars. Mais David avait un cœur tellement honnête vis-à-vis de Dieu. Même quand il commet des erreurs, il reconnaît qu'il a mal fait. Il savait se repentir. Mais le problème de plusieurs, c'est quoi? Mon ami, ça là, tu fais, c'est pas bon, moi. C'est pas moi. Ça y est, tu l'attrapes en train de voler, il dit, il n'a pas volé. Sa main se promenait, c'est pas lui. David a un cœur repentant, un cœur qui aimait Dieu, un cœur qui était tout entier acquis à Dieu. Il a eu des moments de faiblesse, il a commis des erreurs, il a su se repentir et garder la foi absolue dans son Dieu. Lorsque les gens sont venus dans leur village pour prendre leurs femmes, enfants et tout, et que les gens sont arrivés, ont commencé à pleurer, David était celui qui a dit à tout le monde, il dit, arrêtez de pleurer. Et qui a mis la foi dans le cœur de tout le monde pour dire, le Dieu que nous servons a la capacité de nous ramener ce qu'on a perdu. Poursuivons-les. Il te faut de la persuasion parce que vous savez, nous sommes à la fin des temps et les choses vont devenir tellement difficiles que là où il n'y a pas de persuasion, tu vas trahir Dieu sans t'en rendre compte. Je te dis que tu vas trahir Dieu en direct. Tu vas trahir Dieu. On te dit, tu connais Judas, Pierre l'a fait. Pierre, je comprends pourquoi Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. C'est la prière de Jésus qui a sauvé Pierre, sinon Pierre se perdait. Pierre faisait du bruit, oh Seigneur, on est avec toi, oh Seigneur. Il a marché avec Jésus tout ce temps avec un couteau dans la poche. Comment tu peux suivre Jésus? Il a tout abandonné sauf son couteau. Il y a plein de gens ici. Dis à ton voisin, jette ton couteau là. J'ai dit, ce que je prêche là, ça t'arrange, ça t'arrange pas, c'est pour ton bien. Le gars restait un couteau dans sa poche. Le jour où ils ont attrapé Jésus, il a sorti le couteau. Jésus dit, mais mon ami, tu as un couteau. Il a coupé l'oreille du gars, le grand Pierre. Plus tard, il a renié Jésus. Il dit, il ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Parce que sa persuasion n'était pas totale. Pierre. Mais la prière de Jésus l'a racheté. Je prie que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Sinon, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas trahir Dieu. Tu vas trahir ton Dieu. Tu seras étonné. Tu vas le trahir. Tu as dit, Seigneur, tu es qui même? Persuasion. Que ton cœur soit droit vis-à-vis de Dieu. Mais la droiture vient par une persuasion totale de ce que c'est lui ou rien. Deuxième chose ici, dans ce même point. Ton intégrité vis-à-vis de Dieu nécessitera également que tu gardes sa parole dans ton cœur. Il dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes paroles. Parce que tu sais, tu ne peux pas dire j'aime Dieu et puis je ne garde pas sa parole. Ce n'est pas clair. C'est-à-dire, puisque Dieu et sa parole sont indissociables, tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais sa parole non. Tu comprends? Donc, l'incapacité à un homme d'obéir à la parole ou de garder la parole révèle simplement son niveau d'intégrité vis-à-vis de ce Dieu-là. Parce que si Dieu dit, ne mentez point, tu passes ta vie à mentir chaque seconde. Tu écoutes qui? Tu obéis à qui? Tu respectes qui? Non, Dieu, je suis avec lui, hein? Dieu, je le respecte. Mais tu le respectes comment? Est-ce que tu vois Dieu? Non, mais tu as sa parole avec toi. Et sa parole, c'est lui. Maintenant, si tu es incapable d'écouter sa parole et de faire ce que sa parole dit, alors tu n'es pas avec lui. Parce que ce qu'il dit, tu ne fais pas. Amen. En C. N'oubliez pas qu'en deuxième point, on était à quoi? Le choix d'être intègre. Petit A, vis-à-vis des choses matérielles. Petit B, vis-à-vis de notre de Dieu. Petit C, intégrité vis-à-vis de ton prochain. Vis-à-vis de tes frères. Le psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. Oui. Le psaume 50, 10. Regardez la parole, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde a sa Bible. Si je te regarde, tu ne lis pas la Bible. Il y a des gens qui disent ces paroles-là sont trop compliquées. Moi, je préfère ne même pas lire. Il faut lire, ça va t'aider. Oui.
Psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirai pas.
Le psaume 50, c'est ça?
Oui.
10. Ok. Maintenant, va dans Proverbe 1 Corinthiens 13, verset 5. 1 Corinthiens 13, 5. 1 Corinthiens 13, 5.
1 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit, elle ne fait rien de malhonnête.
L'amour ne fait rien de malhonnête.
Elle ne cherche point son intérêt.
Elle ne cherche point son intérêt.
Elle ne s'irrite point.
Oui.
Elle ne soupçonne point le mal.
Oui.
Elle ne se réjouit point de l'injustice.
Mm-hmm.
Mais elle se réjouit de la vérité.
Amen. 1 Thessaloniciens 2, verset 5. 1 Thessaloniciens 2, verset 5.
Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
Dieu en est témoin. Il est en train de dire dans sa relation avec ses voisins et ses frères, il a toujours été honnête. Il n'a jamais utilisé la cupidité, n'a jamais été ou fait quoi que ce soit qui ne soit pas juste quand il a traité avec les autres. Alléluia. Alléluia. Nous avons un devoir d'intégrité les uns envers les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne fait point le mal. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à avoir la retenue les uns envers les autres. On ne peut pas être enfant de Dieu et se haïr. On ne peut pas être enfant de Dieu et se garder des rancunes. On ne peut pas être enfant de Dieu et se médire les uns vis-à-vis des autres. Regardez telle sœur, elle est comme ça, elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens souvent ont des difficultés dans les églises? Il y a trop de gens qui calomnient. Il y a trop de gens super chrétiens qui trouvent que les autres ne sont pas super chrétiens. La Bible dit, si tu es debout, fais gaffe. Prends garde à toi de ne point tomber. La Bible ne t'appelle pas, ne t'établit pas juge sur tes frères. Qu'est-ce que je veux dire? L'église n'est pas le lieu où les parfaits viennent se rassembler. C'est le lieu où ceux qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, viennent. Donc, ce n'est pas un lieu de jugement. C'est un lieu où on donne la parole de Dieu, on dit la vérité. Mais cette vérité-là, chacun la reçoit et dans son subconscient prie et demande la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas à juger. Et tous les frères qui passent leur temps à juger les autres, il faut que ces choses s'arrêtent. C'est un manque d'intégrité vis-à-vis des frères. La Bible nous appelle à nous aimer. Elle ne nous appelle pas à nous calomnier et à dire quoi que ce soit les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que dans tous les cas de figure, nous allons tous vers la perfection. Alléluia. Et quelques-uns dans leur marche peuvent tomber. Mais si quelqu'un est tombé, ce n'est pas ton devoir de l'enfoncer pour qu'il meure. Mais c'est de l'aider à se relever. Dites amen. Donc, dans nos rapports, les uns envers les autres, il faut beaucoup d'intégrité, beaucoup de rigueur, beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté. Alléluia. C'est très important. Et cela manque aujourd'hui dans l'église de Jésus. Les gens ne s'aiment pas. Les gens opèrent par cartel. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ont deux amis. Quand ils les ont salués, le reste, qu'ils aillent où ils veulent. Ça ne peut pas être ainsi. L'église est une famille. Dis famille. Est-ce qu'on peut dire encore famille? Parce que je vais te dire, ceux que tu vas rencontrer au ciel, c'est ceux qui sont ici là. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, tu ne les verras plus jamais juste dans l'éternité. Tes frères, tes vrais frères, c'est ceux qui sont à l'église. Ceux qui prient le même Dieu avec toi. C'est pourquoi il faut avoir de l'amour les uns envers les autres. Il faut vous aimer, il faut vous supporter. Il faut être honnête. Quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux l'appeler. Tu m'as parlé, tu as dit ça, je n'ai pas aimé, il ne faut plus recommencer. Ah, excuse-moi. C'est tout. Sans rancune. Mais la soeur, elle est bizarre. Hein? Quand elle te regarde mal. Mais ce frère-là, il parle, mais regarde ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as appris que ce frère-là, il soit avec celle-là? Ah, est-ce que tu as appris que le monsieur-là, il a fait ça? Non, ce n'est pas ton rôle, ça. Lorsque Myriam a critiqué Moïse, Dieu les a convoqués avec Aaron à la tente d'assignation et leur a dit, qui vous donne mandat de parler contre mon serviteur, Moïse? Qui? La critique est dangereuse. La médisance est dangereuse. Je vous ai dit ici que ceux qui critiquent meurent vite. Ça fait partie des choses qui raccourcissent la vie des gens. Un homme qui aime parler des autres injustement est quelqu'un qui ne va pas durer longtemps sur terre. Parce que tu ne sais pas dans quelle alliance le monsieur il est. Arrêtez de critiquer. Aimez-vous, c'est ce que Dieu vous demande. Soyez honnêtes dans vos rapports. Ne trichez pas. Paul dit, je n'ai pas usé de tricherie dans mes rapports avec les autres. J'ai été honnête avec eux. J'ai dit le droit. Il y a des responsables qui ne se parlent pas. Comment vous pouvez être deux responsables où vous ne parlez pas? Ou bien vous vous critiquez? Ça, j'arrive pas à comprendre, je cherche. On ne bâtit pas sa gloire sur la cendre des autres. Cette gloire-là, on n'appelle pas sa gloire. Elle va s'écrouler comme une carte. Aimons-nous les uns les autres. Salue ton frère à côté, dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui ça avec conviction. C'est comme un gars. Vous savez, Jésus a dit, si vous vous levez faisant votre prière et vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, faites quoi? Hein? Pardonner. Il dit lui, comme il n'a pas envie de pardonner, il préfère s'asseoir. Jésus dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, pardonnez. Ou vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Maintenant, comme il ne veut pas pardonner, il lui a préféré s'asseoir. Alors que Jésus ne parlait pas de position debout ou assis. Il dit, vous là, levez-vous. Moi, je ne pardonne pas. Il s'est assis. Il a dit, Jésus a dit, si vous êtes debout. Donc, comme je ne suis pas debout, je... Non, ce n'est pas ça. C'est une attitude d'esprit. Debout dans la prière, c'est une attitude d'esprit. Ce n'est pas une position physique. Il faut pardonner. Il faut aimer les gens. Quelqu'un t'a fait quelque chose, laisse tomber. Frère, on vit mieux quand on n'a pas de fardeau. Moi, je t'aime. Tel que tu es. Et je suis prêt à t'aider jusqu'au bout. Je ne vais jamais te juger. Mais je te dirai le droit. Parce que le droit, il est têtu. La parole de Dieu, elle n'est pas négociable. Mais sinon, je t'aime. Aimez-vous. Quand vous entendez qu'un frère est malade, visitez le frère. Il y a des gens ici qui ne connaissent même pas la maison d'un frère. Comment vous pouvez dans une église? Vous êtes une famille. Même les familles là. Il y a trop d'individualisme dans l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le problème, c'est que les chrétiens écoutent, mais refusent de changer. Il y a d'autres qui sont assis là, qui ne se sentent pas concernés par ce qu'on dit. Moi, j'ai invité les frères chez moi, pourquoi? Ils ne font même pas du bien. Combien de frères? Vous voyez des gens nécessiteux. Voilà, on va faire ça pour tel frère. Où j'ai remarqué que ce frère-là, chaque fois il vient, c'est la même chemise. Depuis 4 dimanches, j'ai remarqué qu'il porte la même chemise. J'ai mon placard qui est rempli. Il y a des femmes ici. Leur placard, il n'y a plus de place pour mettre les chaussures. Tu ne peux pas mettre ça dans un sac dimanche matin pour venir à l'église. Pour partager. Ramassez, venez à l'église. Partagez aux gens. Dieu va vous bénir. Il y a des choses que tu ne portes plus depuis 2 ans, 1 an. Mais prends, viens donner à 2 frères. Ça va faire du bien aux frères. Et en bénissant les frères, la Bible dit en faisant du bien, certains ont été hospitaliers avec des anges. Il faut que l'amour revienne dans l'église. Ne traitez pas les gens par rapport à leur position sociale. Je dis tout. Moi, mes rendez-vous, c'est tous les mardis. Tu veux me voir, tu es pauvre, tu es riche. Si tu prends rendez-vous, je vais te recevoir. Il n'y a pas de privilégié. Le bureau est ouvert, tu prends ton rendez-vous, tu veux me voir, on se voit. Il y a des pasteurs de service, de permanence, tu veux les voir, tu les vois. Cette église, il faut que les gens marchent dans l'amour. Nous avons un devoir les uns envers les autres. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est parce que Dieu compte sur nous pour de grandes choses. Est-ce que je peux compter sur toi pour un véritable changement de cœur? Je n'ai même pas fini. Il fait quelle heure? Il est déjà midi. Il y a le troisième point qui est le choix du changement. Ce choix-là, c'est le choix. Tu dois faire le choix d'être prospère. J'ai parlé numéro 1, le choix de devenir comme Dieu. 2, le choix d'être intègre dans les finances vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes prochains. Le troisième point, c'est le choix d'être prospère. C'est pourquoi tu n'as pas le choix que d'être prospère. Nous sommes à la fin des temps. Et il te sera difficile de faire la volonté de Dieu si tu n'es pas prospère. Tu sais, l'évangile est équilibré. Quand Dieu te demande d'être saint, là, il te dit aussi que tu peux être riche. C'est ça qui fait notre force. L'équilibre de l'évangile. Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un seulement, sois saint, sois saint, sois saint, sois saint et sois saint. Et là aussi, des devoirs, il a des droits aussi. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire le choix de la prospérité. Mais je dis également que c'est un choix qui est délibéré. Non, sincèrement, c'est un choix délibéré. Hein. On ne devient pas prospère en étant assis à l'église et en espérant. Je vous ai dit que vous ne verrez pas dans la Bible où Dieu a promis à l'église d'être riche. Dieu a souhaité que l'église soit prospère. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est un souhait. Et un souhait reste un souhait. La prospérité n'est pas une promesse, c'est une alliance. Et dans une alliance, il y a des clauses. Voilà pourquoi tout le monde ne devient pas riche. On choisit d'être prospère. C'est un choix qui est délibéré. En faisant quoi? En observant les clauses de l'alliance. Ah, ce que je te dis là, si tu as compris, tu es sauvé. Parce que beaucoup de gens vont espérer jusqu'à ce que Jésus revienne, mais ils seront frustrés parce que entre leurs espérances et la manifestation physique de la prospérité, il y a un décalage. Il y a quelques-uns qui vont sortir du lot financièrement. Et je vais te dire une chose, une vérité. Tu n'as pas besoin de faire de compromissions pour être riche. Dieu peut te rendre riche. Tous ceux qu'on appelle riches dans le monde là, ce n'est pas quelqu'un qui leur a donné ça. Garçon ne peut pas te rendre riche. Tu n'as pas besoin d'aller voir tourner un garçon ou un monsieur. Il dit, ah non, je sois avec ce monsieur là. Et puis il dit, va me donner l'argent, va me donner ça. Non. Ça, ça ne peut pas te rendre riche. C'est un mauvais choix. Est-ce que tu peux me dire amen? Toutes les, pas les mamans, toutes les dames qui ont de 15 ans à 45 ans, levez-vous. Levez-vous. Si tu es dans la fourchette, là, lève-toi. 15 ans à 45 ans. Si tu as plus de 45 ans, tu restes assise. Parce qu'à 45 ans, je considère que tu réfléchis. Donc ce que je vais te dire là ne te concerne pas. Régine, tu as 45 ans? Tu as plus que ça? Ok, écoutez-moi ici. Vous savez, si quelqu'un vous propose l'argent pour vous acheter, dites avec moi, je refuse. Votre prospérité et votre élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle viendra de l'Éternel. Ne faites aucun compromis sur votre valeur. Parce que vous avez une valeur. Est-ce que je peux entendre votre amen?
Amen.
C'est très important. Vous avez de la valeur le jour où vous avez donné votre vie à Jésus là. Votre valeur s'est multipliée par je ne sais pas combien. Mais vous avez de la valeur, vous êtes des perles rares devant Dieu. Gardez votre intégrité. Il ne faut pas compromettre. Dieu qui vous a fait, ce Dieu-là, va faire un chemin devant vous. Ici, dans cette Côte d'Ivoire et dans le monde entier, les gens entendront parler de toi. Je dis, les gens entendront parler de toi. Mais pour des raisons de gain matériel facile, faut pas aller te coucher dans le lit de quelqu'un. Il va te donner l'argent, ça te, et puis après, cet argent qu'il va te donner là, ça va pas t'apporter quelque part, ça va te détruire. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des alliances avec le diable. Leur argent, quand ils donnent à quelqu'un, dans certaines conditions, la vie de ces personnes là est détruite à jamais. Il y a un pasteur qui me disait, il n'y a pas longtemps, je ne te dirai pas son nom, tu vas le savoir. Avant, la semaine dernière, ils ont fait la délivrance d'une jeune dame. C'est ce qu'ils ont découvert. Elle est allée sortir avec un homme du pouvoir. Le nom est Tu. Et le gars est sorti avec elle, chrétienne. Hein? Le gars lui a fait des promesses de lui acheter maison, des trucs. Et le gars lui a montré un bébé sec qu'il a asséché dans une petite chambre. Donc elle a vu le bébé là. Et puis c'est comme le sang qui sortait de la bouche du bébé là. Elle a piqué une folie jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait la délivrance. Fait la délivrance. Ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Ça dit qu'elle a des moments de lucidité. Après elle replonge. Parce que l'alliance, ça dit en sortant avec elle, l'alliance que le gars établit, parce que c'est une alliance de sang, a bousillé sa destinée pour rattraper cette dame-là. C'est trop compliqué. Il me disait que il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils ont tout fait, mais ils n'arrivent pas à sauver la dame. Mais qu'ils croient en Dieu, ils vont continuer. Ils vont continuer, mais la dame leur a expliqué déjà, a donné le nom même du gars. Frères et sœurs, il y a même, j'ai appris à Abidjan ici, il paraît qu'il y en a, quand ils te draguent comme ça là, après ils font quoi? Je ne sais pas, mais ce n'est même pas des choses à dire. Faites très attention, vous les dames là. L'argent c'est bon, mais ce n'est pas tout. C'est un homme avec qui tu vas là. Elle change. Tous les démons qui sont dans sa vie là, entrent dans ta vie. Toutes les alliances qu'il a là, tu les prends. Il ne faut pas compliquer ta destinée pour rien. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il veut t'envoyer quelque part. Est-ce que tu peux dire encore amen?
Amen.
Asseyez-vous. C'est grave, hein? Celui qui m'a dit ça là, j'ai lui posé des questions. Il m'a dit, il dit, tu vois, elle est derrière là-bas. J'ai dit, ok. J'ai dit, souvent ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la puissance. Hein? Non. Il y a des alliances, quand tu entres dedans de façon délibérée pour te sortir, ta vie peut prendre un coup. J'ai dit, c'est la fin d'une histoire qui compte. Faites confiance en Dieu, il va vous aider. Le peu là, il va vous aider, vous allez réussir votre vie. Quand on parle de réussite, c'est quoi la réussite? Tu as une belle maison, tu as tes enfants, tu as climatiseur, tu manges bien. Attends, quel manger, eux ils peuvent manger, que toi tu vas pas manger? Moi je ne sais pas quoi. Manger, quel manger, quelle vitamine quelqu'un d'autre peut avoir en mangeant, toi tu ne vas pas avoir. Même si tu as tes 2 millions par mois. Que de chercher à avoir 20 avec la mort. La Bible même dit que la richesse laquelle augmente est trouble. Si tu n'as pas une assise, Dieu te donne l'argent, ça va te perdre. Parce que l'argent, c'est une principauté. Si tu n'as pas les pieds bien solides, je te dis la vérité. Quelqu'un va venir te dire, je veux te voir. Pasteur, j'ai vraiment 70 millions ou 10 millions de dollars. Je veux te donner. Si tu n'es pas un homme sérieux, pour lui demander de l'argent, là, ça vient d'où? Tu vas prendre pour dire gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es formidable. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Demain là, tu prêches, la police entre. On dit, ils ont attrapé le monsieur là. Il dit, t'as donné son argent à garder. Tu dis, moi? Il dit, oui, t'as donné à garder 70 millions de dollars. Tu dis, tu sais, Satan est dangereux. Il te donne par la main droite, il reprend par la main gauche. Tu dois faire le choix d'être prospère. Dis le choix d'être prospère. Je vais arrêter ici parce que je dois vous parler de les sept piliers de la prospérité. Mais je n'aurai pas le temps. Alléluia. Si Jean dedans, on va terminer. Parce que chaque point est un...
Vous avez été béni par ce message. Vous voulez soutenir le ministère du pasteur Alexandre Amazou? Vous pouvez nous adresser un courrier à l'adresse info@abmci.net ou www.abmci.net.